Radio Prague, les informations.
Climat, la République tchèque va accorder 11,6 millions d'euros aux pays pauvres. Budget de l'État, le président Klaus a encouragé le ministre des Finances à ne pas démissionner. Et un tiers des étudiants tchèques sont pour les frais de scolarité à l'université. Bonjour, la République tchèque s'est engagée à verser 300 millions de couronnes, soit 11,6 millions d'euros, entre 2010 et 2012, aux pays en voie de développement, afin de les aider à mettre en place des économies moins polluantes et à faire face aux effets du réchauffement climatique. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Jan Fischer, présent au sommet européen, qui se tient ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Jeudi soir, 17 États membres avaient annoncé les montants de leurs contributions. Le ministre des Finances, Edouard Janota, a été reçu par le président de la République, Václav Klaus, vendredi matin, suite à l'adoption du budget de l'État, mercredi, par la Chambre des députés. À l'issue de cette entrevue, le ministre des Finances a indiqué qu'il avait le soutien du chef de l'État et que celui-ci souhaitait qu'il poursuive sa mission au sein du gouvernement d'experts. Edouard Janota, déçu par le montant record du déficit prévu pour 2010, a toutefois précisé, qu'il prendrait sa décision en début de semaine prochaine après avoir rencontré le Premier ministre Jan Fischer. Le ministre a annoncé qu'il ne démissionnerait pas sans avoir consulté le chef du gouvernement. Selon une enquête menée par le ministère de l'Éducation auprès de 11 000 étudiants du supérieur, un tiers d'entre eux serait d'accord pour payer des frais de scolarité. Ils seraient en moyenne prêts à payer jusqu'à 15 000 couronnes. La plupart des étudiants soutiennent le principe d'un paiement échelonné sur l'année. Près de la moitié d'entre eux disent que les dépenses pour les études dépassent leurs ressources financières et 40% des étudiants verraient bienvenue l'introduction de prêts étudiants. Les résultats de l'enquête devraient être utilisés dans le plan de réforme de l'enseignement supérieur prévu par le ministère de l'Éducation. Le Sénat n'a pas donné son aval jeudi à la suppression de la redevance audiovisuelle. Le Parti civique démocrate, principale formation de droite du pays, proposait de financer la télévision et la radio publique tchèque directement avec les finances publiques. La majorité de la Chambre haute du Parlement a toutefois estimé qu'une telle décision augmenterait les dépenses de l'État. La télévision et la radio craignaient, elles, de voir leur indépendance remise en cause si leur financement était assuré par les caisses de l'État. Le Conseil de l'Europe a rendu public jeudi à Strasbourg le premier rapport sur la situation des langues minoritaires en République tchèque. Selon ce rapport, le Conseil encourage la République tchèque à promouvoir la sensibilisation et la tolérance vis-à-vis des langues régionales ou minoritaires en tant que partie intégrante du patrimoine culturel du pays, à la fois dans le programme d'enseignement général et dans les médias. La République tchèque est également encouragée à adopter une politique structurée de protection et de promotion du romani et de l'allemand et à créer des conditions favorables à leur utilisation dans la vie publique. Enfin, on termine avec un mot de météo. C'est un temps pluvieux qui continue de régner sur l'ensemble du territoire vendredi, jour de la fête des Danas. Les températures sont en baisse et varient entre 1 et 4 degrés pour les maximales. Aucune amélioration notable n'est prévue pour le week-end. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne Fervelure.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ces derniers faits et événements de la semaine. En sommaire, un événement survenu il y a tout juste 60 ans, le dit miracle de Tchihoshk, qui a donné le coup d'envoi des purges communistes dans les monastères. Ensuite, nous parlerons d'un nouveau succès de chercheurs tchèques qui viennent de mettre au point une matière susceptible de lutter contre le sida. Ce sera juste avant de passer à un tout autre thème, l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête du zoo de Prague, Miroslav Bobek, actuel directeur de l'une des stations de la radio tchèque. Et puis, il y aura, comme toutes les semaines, notre rubrique économie-commerce. Très bonne écoute de ce programme présenté depuis les studios de Radio Prague. Ce vendredi, 60 ans se sont écoulés depuis le miracle de Tchihoshk, un événement qui donna le coup d'envoi des purges communistes dans les rangs de l'Église catholique. 60 ans après, et au regard des archives, en sait-on plus sur cet événement, Anna Kubishta.
Le 11 décembre 1949, dans la petite église de Čihošť, un village situé à 100 km au sud-est de Prague, un crucifix se serait mis à bouger sur l'autel principal pendant un sermon du père Josef Toufar. Ce sont quelques fidèles qui lui apprennent l'événement. Alors que l'atmosphère est déjà exécrable entre l'église et le nouveau gouvernement communiste, Josef Toufar tente de rassurer les fidèles et d'éviter toute mauvaise publicité qui pourrait lui nuire. Mais la nouvelle se propage et le père Toufar est vite accusé par la propagande de manipuler les foules et d'avoir manigancé un faux miracle. L'événement a longtemps été considéré comme une mise en scène préparée par la STB, la police secrète. Mais d'après Adolf Razek, ancien enquêteur à l'Institut de documentation et d'enquête sur les crimes du communisme, il n'existe pas de preuves directes.
Nešlo o provokaci STB.
Il ne s'agissait pas d'une provocation de la STB. La STB n'a fait qu'utiliser ce miracle, ou plutôt ce phénomène inexpliqué et inexplicable. L'enquête a démontré que la STB n'a pas du tout participé à la première phase. Par contre, les relations entre l'Église et l'État s'étaient exacerbées au cours de l'été 1949. Il s'agissait pour le régime de mettre en doute les activités de l'Église. C'est à cela que devait servir par la suite le procès avec le père Toufar.
Car peu après le fameux miracle de Čihošť, des fidèles affluent vers la petite église et ça ne plaît pas au régime en place. En tout cas, accusé et le père Toufar permet au régime de faire d'une pierre deux coups. Il peut commencer à liquider l'église qui a encore une forte influence dans les campagnes et qui représente un potentiel opposant à la collectivisation des terres. Le père Josef Toufar est arrêté et subit des interrogatoires musclés menés par un certain Ladislav Macha. Des interrogatoires si musclés qu'il conduiront à la mort du religieux, Adolf Razek.
En fait, la situation leur a échappé. Macha, un des agents de la STB, a exagéré. Il ne l'a certes pas tué, mais il l'a battu de telle façon qu'il a eu de graves problèmes de santé. Le père Toufar est mort d'une infection. Ils l'ont emmené dans un sanatorium d'État parce qu'ils voulaient le sauver à tout prix afin de pouvoir faire son procès et qu'il y joue le rôle qu'on lui avait attribué.
La STB ne put donc utiliser le père Toufar dans le film de propagande censé reconstituer l'événement et employa en remplacement un de leurs agents. Le documentaire sera diffusé dans tout le pays. On ne sait toujours pas exactement aujourd'hui ce qui s'est réellement passé dans l'église de Čihošť. Une chose est sûre, les persécutions firent des ravages dans les rangs de l'église catholique. En 1998, l'ancien agent de la STB, Ladislav Macha, a été condamné à 8 ans de prison ferme, puis à 2 ans en appel. Comme d'autres anciens cadres du régime jugés après la révolution de velours, il n'a jamais purgé sa peine pour des raisons de santé. Aujourd'hui, l'Église catholique envisage de faire béatifier le père Toufar, comme l'a été le père Popieluszko, assassiné par les services secrets polonais. L'histoire du miracle de Čihošť a été adaptée dans un film tchèque de 2004 intitulé « In nomine Patris » et plutôt abordée dans le livre de Josef Škvoretský « Miracle en Bohème ».
Les chercheurs tchèques ont mis au point un combiné unique susceptible de lutter contre la maladie du sida. Le brevet a été déposé par l'Institut de chimie et de biochimie organique de l'Académie des sciences. Pavlina Žezáčová, chef de l'équipe de chercheurs tchèques et allemands, qui en a informé la première, indiquait que les chercheurs ont entre leurs mains un combiné qui s'est montré efficace lors des tests effectués et qui a le potentiel pour devenir un nouveau médicament contre le sida.
Si cette matière efficace devient un jour un médicament contre le sida, cela, on ne peut pas l'affirmer pour l'instant. La voie entre sa mise au point et la fabrication d'un médicament peut être encore longue et cela dépendra des firmes pharmaceutiques.
Les matières capables de freiner la prolifération du virus VIH existent déjà. Le problème qui se pose est la résistance que le virus développe. Le virus mutant se propage encore plus rapidement dans l'organisme en attaquant les leucocytes et en détruisant le système immunitaire de la personne atteinte. En quoi la nouvelle matière combinée est-elle différente? Explication de Ladislav Machala, médecin infectiologue et membre de l'équipe de chercheurs.
Il s'agit d'une molécule unique dont la structure chimique est entièrement différente de tous les médicaments utilisés aujourd'hui. Pour cette raison, elle est très efficace contre le virus VIH dont la mutation est très rapide et qui après un certain temps développe une résistance aux médicaments, ce qui présente un problème grave puisque la maladie du sida peut se développer à plein. Cette molécule a justement la capacité d'agir d'une façon unique sur les virus mutants et résistants.
La maladie du sida a été détectée pour la première fois il y a 28 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 1980 lorsqu'elle était considérée comme irréversible?
Les recherches progressent rapidement. Depuis la moitié des années 90, lorsque le traitement antirétroviral a été introduit dans la pratique, nous avons avancé vers des médicaments plus efficaces garantissant plusieurs années de survie, comme le prouvent les statistiques. Aujourd'hui, quand un patient de 25 ans vient me chercher au stade précoce de l'infection, je peux lui garantir 40 ans de survie au cas où il aura accès aux acquis de la médecine moderne.
L'efficacité de la nouvelle matière combinée susceptible de guérir à l'avenir le sida doit encore être démontrée par une série de recherches et de tests cliniques. L'investissement indispensable étant évalué à $1 milliard, il est fort probable que l'Académie des sciences cède son brevet à l'une des grandes firmes pharmaceutiques. Il en était de même dans le cas du médicament antiviral précédent synthétisé par le professeur Antonin Holly et développé ensuite aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit en titre, le zoo de Prague aura un nouveau chef à partir du 1er janvier prochain. Il s'agit de Miroslav Bobek, actuel directeur de la section online de la radio publique tchèque. Il a remporté le concours pour la succession à Petr Fejk, devenu directeur du centre tchèque à New York. Václav Richter.
Il n'est pas facile de succéder à Petr Fejk, homme populaire qui a su se servir des médias pour faire des problèmes du jardin zoologique de Prague une affaire publique. Il semble que le nouveau directeur s'en rende compte car il se déclare prêt à poursuivre et à développer l'œuvre de son prédécesseur. Interrogé sur ses rapports vis-à-vis des animaux, il rappelle que déjà pendant sa carrière à la radio, il a collaboré à des projets concernant la migration des cigognes noires et la vie des gorilles.
Je me sens évidemment très proche de la famille des gorilles du zoo de Prague. Dans le cadre du projet intitulé Les Dévoilés, nous avons passé avec eux énormément de temps et puis mes collègues et moi, nous avons écrit des livres sur eux, des contes, etc. Ce sont donc des créatures avec lesquelles ma vie est inséparablement liée.
En effet, Miroslav Bobek est l'auteur d'un projet basé sur le principe de reality show et dans le cadre duquel le public a eu l'occasion de suivre en direct sur Internet, 24 heures sur 24, la vie d'un groupe de gorilles dans le jardin zoologique de Prague. Les priorités du nouveau directeur ont déjà été définies dans sa conception du zoo présentée dans le cadre du concours.
En ce qui concerne le rapport vis-à-vis des animaux, je soulignais en premier lieu que ceux-ci doivent être élevés dans des conditions correspondant à leurs besoins et à leur comportement naturel. Deuxièmement, j'ai mis l'accent sur la présentation des animaux dans le contexte de leur biotope. Il faut donc présenter aussi le milieu dans lequel ils vivent. Et troisièmement, je pense qu'en ce qui concerne les vertébrés supérieurs, il faut les percevoir déjà comme des individualités qui ont leurs itinéraires, leur histoire, leur nom, etc.
Le nouveau directeur désire donc d'abord protéger les animaux, mais se propose aussi de conserver l'attractivité du jardin zoologique pour le public. Il est conscient que le zoo, situé dans le quartier de Troïa, relativement éloigné du centre de Prague, n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun. Cette situation risque de décourager les visiteurs potentiels et le nouveau directeur aimerait l'améliorer.
Une petite pause en musique pour nous mettre dans l'ambiance de l'avant, une exposition inaugurée ce vendredi au musée Comenius à Prague dédiée à l'auteur de la célèbre messe de Noël tchèque, Jakub Jan Rypa. Le compositeur qui a vécu entre 1765 et 1815 à Rožmitá dans la région de Plzeň est connu du grand public par cette œuvre qui retentit chaque année dans de nombreuses églises et salles de concert. Ce dimanche, le public de Plzeň aura l'occasion d'entendre la première d'une œuvre, jusqu'à présent inédite de Jakub Jan Rypa, Missa Pastoralis, dont la partition a été récemment découverte chez un antiquitaire de Vienne. Petit avant-goût de cette première avec un extrait de sa plus célèbre composition, Hola Maître. C'était les faits et événements. Merci de les avoir écoutés et restez avec nous pour la suite du programme sur Radio Prague.
Économie, commerce.
Bonjour, après les paniers bio, la semaine dernière, nous allons consacrer cette nouvelle rubrique économique à un autre secteur de l'économie un peu alternatif. Cette semaine, en effet, nous allons nous intéresser à la culture du chanvre, qui peut constituer une matière première écologique pour la fabrication d'un certain nombre de biens de consommation. La culture du chanvre est une culture traditionnelle multiséculaire et elle est strictement contrôlée à cause de son caractère potentiel de stupéfiant. Michal Juman est le président de l'association Konopa, un portail d'information sur la culture du chanvre et ses applications. Il explique quelle est la situation en République tchèque.
En République tchèque, il y a un marché avec les traitements cosmétiques à la base de l'huile de chanvre, des graines de chanvre, et aussi avec l'extrait des fleurs de chanvre. Il y en a un peu de production de graines de chanvre comme alimentation avec l'huile pressée en froid qui est uniquement nutritif. et qui est riche en oméga 3, 6, 9, donc les gras essentiels. Puis il y a une usine pour production d'isolation de laine de chanvre. Les matériaux de construction sont en train de développer. C'est une branche qui est beaucoup, beaucoup développée en France. Donc on essaye d'utiliser un petit peu ce qu'on a appris à France et adapter et appliquer à la République tchèque. Donc c'est un grand futur. Et puis, malheureusement, je dois dire, nous avons produit des textiles, aussi des tissus, mais ça, c'est tout fini, malheureusement, parce que toute l'industrie de laine, qui était beaucoup connectée avec le chanvre, c'est fini.
Pour des raisons purement économiques liées à la crise ou...
On dirait économique, ouais, mais il y a toujours quelque chose de politique derrière, ou au contraire, on ne sait pas.
Les politiques sur le développement de la culture du chanvre à usage technique ont en effet souffert en République tchèque de ce qui paraît être une certaine hésitation politique. Interdite au moment même où la culture du chanvre industriel était mise en place en Allemagne, dans les années 90, elle a été réintroduite 3 ans après, en suivant la législation allemande. Néanmoins, c'est une culture surveillée de très près. On écoute Michael Ruhlmann.
Aujourd'hui, législativement, on a appliqué les lois européennes. Donc, on peut cultiver le chanvre qui ne contient pas plus que 0,3% de THC. On peut cultiver le chanvre qui est sur les listes des variétés de chanvre de l'Union européenne. C'est vrai que les variétés de chanvre industrielles ne sont pas tous les temps vraiment suffisants pour la Tchéquie. Donc on ne peut pas cultiver beaucoup de variétés. C'est dommage parce que, bien sûr, ça sera beaucoup plus intéressant pour les fermiers s'ils peuvent cultiver quelque chose qui est adapté pour le climat tchèque. Dans le même temps, on ne peut pas utiliser les mêmes graines. On ne peut pas utiliser des graines fermiers. Il faut toujours acheter des graines certifiées. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est aussi dommage.
Est-ce que la culture du chanvre est économiquement intéressante en termes purement économiques? Est-ce que ça coûte cher de cultiver du chanvre? Est-ce que ça coûte cher de le transformer en différents matériaux?
Ça dépend beaucoup à comment on cultive, comment on le procède, avec quelle machine. Donc, à la base, aujourd'hui, c'est cher. Ouais, parce qu'on apprend, on investit. Et il n'y a pas beaucoup de grands marchés, mais dans le même temps, il y a toujours des gens qui le font. Donc je crois que ça doit être économique.
Un peu moins de 200 hectares sont cultivés sur le sol tchèque pour des usages principalement alimentaires. Un des grands débats de ces dernières années a porté sur les vertus thérapeutiques, dans certaines conditions, du cannabis. Un peu moins de 200 hectares sont cultivés sur le sol tchèque pour des usages principalement alimentaires. Un des grands débats de ces dernières années a porté sur les vertus thérapeutiques, dans certaines conditions, du cannabis. Le débat est d'ailleurs presque clos, puisque dans certains pays, notamment certains États des États-Unis, où la législation est beaucoup plus sévère sur la consommation privée de cannabis, sa consommation à but thérapeutique est autorisée pour certaines pathologies. En République tchèque, la législation est finalement relativement tolérante pour la consommation de drogue, mais peu de recherches sont développées sur ses vertus thérapeutiques. On écoute Michal Urman.
On ne peut pas vraiment parler des chanvre qui est utilisé directement pour la médecine. Il y en a, le chanvre industriel, qui est utilisé pour préparer des cosmétiques qui sont médicales. Mais il n'y a pas les recherches vraiment officielles qui travaillent avec le chanvre. Duchamp Dvorak, l'association Konopielek, a essayé de planter 1000 fleurs de chanvre comme la médecine. Mais les fleurs étaient coupées par police, voilà, ils n'acceptent pas encore.
Pourtant, l'association de Dusan Dvorak, le chanvre est un médicament, à laquelle Mikhail Ruman fait référence, a reçu au début du mois de décembre un prix signé par le Premier ministre Jan Fischer du Conseil gouvernemental pour les personnes handicapées. Le gouvernement vient par ailleurs d'assouplir la législation tchèque sur la consommation de certaines drogues, parmi lesquelles le cannabis. Sans vouloir faire l'amalgame entre culture du chanvre à usage technique et consommation de cannabis, il est néanmoins difficile d'évacuer la question et la position de l'association Konopa sur ce sujet est sans détour.
On demande acceptation de chanvre comme des herbes, comme on cultive le thym, comme on cultive les autres herbes. Sans aucune prohibition, il y en a bien sûr les substances qui peuvent être dangereuses si on ne les l'utilise pas bien. Le chanvre, il n'y a pas beaucoup de risques. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent peut-être pas bien. Sont trop jeunes, mais dans le même temps, le risque pour eux est moins grave que des consommations d'alcool, de tabac ou des autres plantes qui sont beaucoup plus accessibles. Donc on dit pourquoi cette prohibition qui coûte trop cher, qui affecte trop de gens, des gens qui sont malades, des gens qui sont jeunes, des gens qui sont normaux, qui font pas des choses criminelles. On est bien sûr dans ce côté d'accord avec des mouvements de légalisation qui dit on veut liberté de planter.
Souvent les gouvernements, ou en tout cas je le vois comme ça, ont un petit peu peur aussi d'attirer un espèce de tourisme de drogue. Vous pensez pas que c'est une des choses qui peut les inquiéter?
Ah, bien sûr, mais je crois que c'est pas secret que la République tchèque, c'est le Pays-Bas de l'Europe centrale. Et il y en a déjà le tourisme de drogue aujourd'hui. Et tu sais, le tourisme, ça marche sur les marchés noirs. Donc, est-ce qu'il y a quelques avantages de cet état? Je ne les vois pas.
C'est tout dans ce demi-heure en français sur Radio Prague. Merci de votre attention. L'actualité tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. Passez un bon week-end. Au revoir. La soirée d'annonce.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10.30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz, y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1:30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6200 y 7300.